Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Juju.
Ouais.
Alors, comme vous le savez, je remplace Alex aujourd'hui.
Ouais,
et alors, attention, les banilons, l'invité du jour, clairement, elle n'est pas de notre crew.
Ouais,
enfin, surtout pas dans le tien de végo islamo-gauchiste, Guillaume. Oh, tu m'écoutes ?
Oui, bah ça va, je peux faire le truc en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, l'invité ? Elle est de droite ?
Non, enfin, elle dit pas de mal de Macron, quoi.
Ouais, ah, super. Okay, ouais.
Non, mais oh, Charline, allô ? Hein ? Elle le soutient.
Attends, Guillaume, fais voir, là, ce que tu...
Mais fais voir quoi ?
Non mais c'est nul, c'est pas mon bon profil, mais recommence.
Mais ouais,
enfin.
Mais t'es à contre-jour, là, vas-y, tourne-toi du coup. Mets-toi.
Mais enfin, vous faites quoi avec vos téléphones ? Je vous signale qu'un téléphone comme son nom l'indique clairement d'ailleurs, c'est fait pour téléphoner.
Oh là là, Juliette, comment t'es toute pétée, quoi. Vas-y, Charline, je t'envoie un snap.
Ouais.
Un quoi ? Mais j'y comprends rien.
Non, mais ça, on fait des stories.
Des histoires, quoi. Oh, j'en peux plus de ces anglicismes.
Non, des stories Insta, en
mais
fait.
Ouais.
Insta ? C'est quoi, Insta, Instabilo ?
Oh la tronche que t'as, Charline, viens, on fait un boomerang.
Ah non,
tu vois bien où il va finir là, le boomerang.
Non mais Juju, mais c'est comme ça maintenant. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, tu swipes, tu tweets, tu gifles.
Bah
quoi.
Oui, enfin.
Mais enfin, les enfants, vous voulez pas lire des livres plutôt ?
Hein ? Des livres ?
Mais ça va pas, mais les livres, c'est old,
oh
quoi.
My God.
Un saut 2008, quoi.
Ah, la meuf, elle lit des livres.
Et juste écouter ce que dit Elliot avec Assis au lieu de faire du buzz.
Mais tu piches pas, Juliette, hein. Tu sais ce qu'on fait, nous ? On troll le système.
Stylé.
Ouais, stylé.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up du service public, cet endroit où l'actualité est tête de liste du parti d'en rire. Le mot-clé depuis deux semaines, c'est progressisme. Ce mot est censé résumer à lui seul la doctrine de l'exécutif. Deux conseillers de la Startup Nation l'ont théorisé dans un livre. Qui n'est pas macroniste ne serait donc pas progressiste. Pire, qui n'est pas progressiste serait populiste.
Je vais créer la ligue centriste révolutionnaire. Ça, c'est porteur comme concept.
L'Espagne passe à 8 semaines de congé paternité. 8 semaines ! Quand la France en est à 11 jours, où est l'égalité homme femme quand le papa a 11 jours de congé parentalité?
Oh, ça pique le nez, dit tellement ça.
Lui dis pas ça, sinon plus tard elle sera constipée comme son papa.
Et enfin, on va se pencher sur le phénomène PNL, les deux frangins rappeurs, aussi mystérieux que célèbres chez les jeunes personnes, des gars adeptes du vocodeur et de la liberté dans l'usage de la langue française.
Le A, le I, le O, ça va encore, mais les E, tu fais encore plein de fautes d'accent.
On en a marre des voyelles, moi.
elle joue à la marelle avec les voyelles pour atteindre le paradis des mots. C'est Juliette Arnaud.
Bonjour,
oh, la beauté
Charline.
De ce lancement.
Oui, il est sublime.
Ah, il va être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense.
Minimum. Selon la sacro-sainte formule, une belle équipe avec un point textile, avec d'abord Rukyatar Ouedraogo, élue à l'unanimité la chroniqueuse la plus chic de par Jupiter, que c'est une pitié de ne pas l'avoir en pied. Chic et drôle, le monde entier nous l'envie. Alors, Ruki ?
Merci Juliette.
Mais de rien.
Là, tu devrais faire ça tout le temps. On va virer Alex. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'anniversaire.
Mm-hmm. Yeah. Alors toujours le point textile avec ensuite Guillaume Meurice, le chroniqueur désigné officiellement comme le moins élégant par Jupiter, voire de la France Inter, et qui prétend, comme Cyrano de Bergerac, que c'est moralement qu'il a ses élégances.
C'est vrai, pas mal. Cyrano, il est pas mal,
oui,
c'est bien.
Et
bien moi, je vais vous parler de... Je vais vous parler de chants de supporters homophobes que la ministre des Sports veut interdire. Je suis donc allé voir PSG Nantes hier soir et côté supporters, ça va mieux quand même.
Bah, ça peut être dépêné, puis on peut leur dire qu'il aille se faire enculer.
Il y a quand même toujours une petite obsession au niveau de la zone anale. Toujours, je ne vous cache pas.
Ok. Avec enfin Clara Dupont-Mono, jamais plus belle que vêtue d'une guimpe, d'un touret à résille ou d'un surcot. Oui, c'est pas très radiophonique, mais c'est ça le Moyen-Âge. Faites preuve d'imagination, Clara.
Mes hommages, Juliette. Ma révérence. On va parler des indésirables aujourd'hui, en lien avec notre invité.
Et voici celle qui va intellectualiser notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Eliette Abécassis.
Mais oui.
Je confirme.
Si, c'est vrai, c'est elle.
Bienvenue.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue, Eliette Abécassis.
Merci.
Vous publiez L'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi chez Albin Michel, un essai. Vous expliquez que la société est devenue trop rationnelle, technocrate, capitaliste. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Qu'on s'est laissé bouffer par l'emprise des GAFA. Vous voyez même un côté totalitaire au smartphone, d'où le petit sketch qu'on a fait au début. nous sommes perdus car nous n'avons plus la foi. Alors la foi en rien, hein, ni la foi dans l'amour, ni la foi dans la politique, la foi dans l'humain en général.
Ça va, Eliette, vous, en ce moment, quand même.
Mais oui, parce que j'ai des solutions. Attendez la deuxième partie.
Bah, j'allais vous poser cette question d'une autre manière, mais ce livre, vous l'ouvrez aussi sur, finalement, je ne sais plus où me situer, parce que je ne sais plus pour qui voter. Vous expliquez que vous avez suivi un temps le Parti Socialiste.
C'est pour ça que vous êtes déprimé. D'accord. Okay.
Vous étiez impliqué dans la campagne, etc. Vous dites aujourd'hui, je ne crois plus à la gauche, moi je ne suis pas non plus de droite. Vous vous posez la question, comment éduquer ses enfants, surtout à l'ère technologique, comment aborder la relation amoureuse à l'heure du SMS, de Tinder, etc. J'allais vous demander, pourquoi est-ce que vous avez le seum, Eliette?
J'essaye d'être un petit peu lucide sur notre époque. Ça me rend pas triste ou dépressive. Au contraire, ça me rend combative, puisque c'est l'envie d'y croire qui m'anime, c'est-à-dire l'envie de lutter effectivement contre la fin des idéologies, des idéaux et même la fin des sentiments avec l'avènement du marché de l'amour, comme le montre la sociologue Eva Illouz. Même les sentiments sont sur le marché et avec les applis qui apportent aussi, enfin qui ont beaucoup de vertus parce qu'ils mettent les gens en relation. Mais on passe de l'un à l'autre et puis on a l'impression que les gens se sont vidés finalement de leur passion, de leur être même, presque de leur âme. Donc il est nécessaire de retrouver des sentiments, des guides peut-être pour nous aider, puisque les religions ne peuvent plus nous guider. Elles sont aussi discréditées sur le sujet du fanatisme ou bien tout ce que l'on découvre tous les jours.
Associé aux extrêmes.
Voilà. Les philosophes ne nous guident pas non plus. Alors qui va pouvoir nous dire quel sens à la vie, tout simplement, parce qu'on est perdu dans ce monde technologique qui nous happe, qui capte nos esprits et qui nous enjoigne de répondre, parce que les mœurs évoluent très vite, il y a une vraie accélération. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, on ne se sentait pas obligé de répondre dès qu'on reçoit un SMS. Là, si on ne répond pas, on a 3 SMS qui nous disent mais pourquoi tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe?
J'allais vous demander, quel est votre, sur base de quel constat, parce que effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on peut louer un ami grâce à une application, on peut rencontrer quelqu'un autour de chez soi dans l'heure, sur Tinder, etc. On reçoit des SMS, on peut aussi découvrir ce que vous expliquez. Aujourd'hui, dans les relations, on peut très bien tomber sur le SMS qu'a reçu son conjoint et la relation peut s'arrêter. Vous dites même à un moment, est-ce que l'amour, c'est pas de tomber sur un SMS
et de rester avec la personne malgré ce qu'on a découvert.
Oui, sur quelle base faites-vous ce constat? Parce que nous, si on regarde autour de nous, on n'a pas forcément l'impression d'être entouré de gens qui sont
complètement dominés par la technologie et qui sont addicts à leur à leur smartphone. Moi, je vois beaucoup ça autour de moi. Je vois même quand on va dans les restaurants, on a des gens qui déjeunent ensemble, mais chacun sur son smartphone. Et je vois ça surtout aussi dans l'éducation des enfants. Alors nos enfants, ils se déplacent jamais sans leur smartphone. Ils se réveillent avec, mais même nous, le premier acte qu'on fait le matin en se réveillant, je pense que c'est qu'on allume son téléphone, et le dernier, c'est-à-dire on éteint son téléphone. C'est-à-dire le rapport qu'on a, c'est même plus un rapport humain, c'est le rapport à la machine. Et les enfants, effectivement, leur esprit est capté par leur smartphone.
On leur confisque dans ce cas-là, non, avant de dormir?
On leur donne des règles.
Alors là, pour le coup, quand on leur confisque, ils tombent en dépression. Il se roule par terre, c'est très...
Ah non, mais se rouler par terre, c'est pas une dépression, c'est se rouler par terre. Non, parce que moi, j'ai pas eu la télé, par exemple, et je fais partie d'une génération où il y a eu des parents qui nous ont interdit la télé. Évidemment, on râlait, mais pour autant, on n'a pas eu la télé.
Oui, mais c'est très compliqué d'avoir des enfants qui ont... Quand toute la classe... à son smartphone. Maintenant, en fait, même tout est devenu technologique parce qu'ils sont tous sur WhatsApp. Il y a le WhatsApp de la classe. Ils ne vont pas être au courant simplement de ce qui se passe parce que les devoirs aussi, ils sont donnés sur le smartphone, sur l'appli.
C'est-à-dire s'ils ne sont pas connectés, ils sont marginalisés.
C'est plus possible. C'est qu'ils n'ont plus les informations, en fait. Tout vient de là. Et un smartphone contient vraiment toute notre vie, en fait. Donc, je crois que c'est difficile d'avoir un rapport au réel et au monde du travail et à ses amis sans l'intermédiaire de la technologie. Alors, je suis pas du tout conservatrice ni réactionnaire, c'est-à-dire que je suis moi-même très geek, je suis sur Insta, Facebook, etc. Je pense simplement qu'il faut organiser ce monde technologique. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il faille revenir en arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits. Mais je pense qu'il faut ne pas se laisser dominer par la technologie, mais trouver des moyens de la rendre, d'en faire un vrai bienfait pour l'humanité et pas de perdre son humanité à travers la technique.
De vivre avec et de garder le contrôle et de ne pas céder à la dictature des GAFA, voilà. Comme vous l'expliquez.
Que ça reste un outil.
Ouais. De garder le contrôle de nos vies,
ouais, pas de faire de nous des produits. Comme une pelle ou une paire de ciseaux,
ouais,
bah, okay. Bien sûr.
Ok, ça me va.
Ou un préservatif pour Visorec, par exemple.
Ne parlons pas des absents. L'envie d'y croire, journal d'une époque 100 fois paru chez Albin Michel. Eliette Abécassis, on va parler de cette époque 100 fois. Ça touche à plein de domaines qu'on va traiter à travers l'actualité jusqu'à 18h. Restez avec nous, il y a bien sûr Clara Dupont-Monod.
Oui,
il y a Rukiata, oui. Il y a Juliette, il y a Guillaume.
On en profite qu'il ne soit pas là.
Et la benzine ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è svalutation. Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Salutation Adriano Celentano sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, c'est Eliette Abécassis qui nous accompagne jusqu'à 18h. Elle publie L'envie d'y croire, journal d'une époque 100 fois chez Albin Michel. Juliette Arnaud, vous êtes avec moi aujourd'hui. Et qui autour de la table pour entourer Eliette Abécassis?
Rukiata Ouédraogo.
Présente.
Clara Dupont-Monod. Bonsoir. Levez la main si vous êtes là. Bonsoir. Et oui. Malheureusement, puisqu'il le faut.
Oui, c'est contractuel.
Je vais vous dire, j'en ai besoin pour le journal.
Ah voilà.
On vous demande de dire à quelle heure sonne vos cloches, on s'en fout, nous.
Le journal de presque 17h17.
Tout le reste, si vous me permettez, c'est du bullshit.
Et on commence avec les titres.
Avec la préparation du grand débat des européennes ce soir sur France 2 et sur notre antenne, ça va être chaud. Hein,
oui, il faudra prévoir un petit déo pour le grand débat.
Ah, ça commence bien, ça commence bien.
Ah, ouais. Je suis en forme aujourd'hui.
On parlera aussi de la disparition du célèbre coiffeur Jean-Louis David.
Oui, Jean-Louis, mort pour la frange.
Ok. Donc là, on est sur une base de jeux de mots, en fait.
Oui.
Et il y aura des jeux de mots ou des brèves.
Il y aura les deux, hein, comme on dit, marche ou brève.
Ah, très bien.
J'ai une patate. Ah, je suis chaud.
Le grand débat a lieu ce soir sur France 2 et sur France Inter. Ils seront 12 comme les apôtres, mais Judas n'est pas là.
Et non, Manuel Valls va nous manquer.
Jean Lassalle aussi nous manquera puisqu'il ne participera pas au débat, il n'a pas été invité.
Oui, l'action Pernod Ricard dévisse à la bourse de Bagnères de Bigorre.
Et en revanche, François Asselineau sera là.
Oui, il sera là. Alors, est-ce qu'il est en forme? Ça va, François?
Pensez printemps, les amis.
Non, bah, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. On est en avril, il pense printemps, il est en forme.
Politique encore. Emmanuel Macron est arrivé en Corse, entouré de CRS et de policiers.
Oui, une armada et les sirènes ont fait un raffut pas possible, on écoute. Casse-tête.
Non, vous allez avoir des gros problèmes.
Non, mais ça va, c'est une blague. Oh là là. Alors, je vous rappelle l'adresse si vous voulez vous plaindre de cette blague sur les Corses. alex.vizorek@radiofrance.com.
C'est pas les absents, on a dit.
Ah oui, pardon.
Politique encore avec une déclaration d'Aurore Berger sur Sud Radio.
Oui, alors elle a trouvé probablement le meilleur argument anti-Macron.
Je sais que si Emmanuel Macron n'avait pas été candidat à l'élection présidentielle, des personnes comme Amélie de Montchalin ou comme moi, on n'aurait pas été choisi pour devenir parlementaire.
Rendez-vous compte si on n'avait pas eu Aurore Berger députée.
Qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi.
Et Amélie de Montchalin non plus.
Arrêtez, ça me stresse.
Et Marlène Schiappa non plus.
Arrêtez, ça m'angoisse. Putain, j'ai l'impression d'être Clara Dupont-Mono à la cantine de Radio France.
Ok.
Je suis pas bien là. Bon, d'autant que la situation est toujours très tendue politiquement en France. Heureusement, on peut compter sur la matinale de France Inter pour apaiser les choses et inviter un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, qui ce matin déclarait ceci.
C'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions, citoyens, à râler un peu moins, et je le dis carrément, à obéir un peu plus.
Voilà, c'est quand même bien sympa pour calmer les choses. À mon avis, les Black Blocs, là, ils écoutaient ça en mangeant les Chocapic, ils sont bien... Ils sont bien calmés, là.
Hein, un philosophe comme ça, c'est bien pour apaiser. Hein.
Oui, demain, on espère qu'il y aura PNL pour parler syntaxe.
Voilà. On passe à une triste nouvelle, c'est le décès du célèbre coiffeur Jean-Louis David.
Oui, alors on commence évidemment par une pensée pour Jeannette Bougrabe.
Et oui, comme à chaque décès.
Bien évidemment.
Son état de santé s'était dégradé à Jean-Louis David, oui. Le dégradé étant précisément sa spécialité.
Et voilà, c'est cohérent. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de personnalités qui lui rendent hommage. Alain Juppé aurait déclaré Jean-Louis qui ?
International, à présent, on a des nouvelles de Carlos Ghosn. Il a à nouveau été arrêté par la police.
Oui, ça chauffe pour lui, d'autant que le design de la Twingo est évidemment un facteur aggravant dans cette histoire.
Aux États-Unis, Lori Lightfoot, une femme noire homosexuelle, vient d'être élue maire de Chicago.
Et donc, c'est Éric Zemmour qui rejoint la Belgique à la tête de la Coupe du Monde de Somme.
Et surtout, on salue Lori Lightfoot, celle qu'on appelle dorénavant la mère noire.
La mère noire, oui, c'est ça.
Environnement, selon une étude... Ça, je l'ai lu un peu vite tout à l'heure.
Oui. C'est les rapports Julien Lepers, tout ça.
Ouais. Selon une étude publiée par l'UNICEF aujourd'hui, les enfants seraient les premières victimes de la pollution de l'air.
Oui, après avoir appris ça, Christian Quesada aurait décidé de passer à la voiture électrique.
People, toujours. Le nouvel album de Céline Dion sortira en novembre. Courage.
Oui, il en faut pour l'écouter.
Non, c'est le nom de l'album, Courage.
Ah d'accord, bah oui, d'accord. Bon, c'est cohérent aussi. Oui, je pense que le prochain album de Christophe Maé s'appellera Tant pis.
Il y aura des brèves.
Oui, bah allez-y.
Toulouse, un homme braque un bureau de tabac déguisé en fantôme.
Ah, bah il faut bien que Bouteflika s'occupe hein, maintenant, c'est sûr.
Suède, nu, un policier arrête un repris de justice, nu lui aussi dans un sauna.
Oui, bah faut bien que Jacques Chirac s'occupe, hein, bien évidemment.
Je pense que sur cette bonne base, Elie Tabekassis, on est bien informé, on va pouvoir discuter.
Là, on change le monde, là, c'est à partir du moment où ça bascule, l'émission bascule dans une autre
dimension. 17h25, Elie Tabekassis, qu'est-ce que le progressisme? Eh bien, ça vous fait rire le progressisme?
Non, parce qu'elle rigole des blagues en retard.
Le dégradé. Oui.
Dégradé, voilà, sur le dégradé.
Concentrez-vous parce que c'est une question idéologico-philosophique, oui. Attention. Qu'est-ce que le progressisme? Depuis deux semaines, deux conseillers du président, enfin ex-conseillers... Ex, je mets entre guillemets, nous explique que c'est un synonyme du macronisme, d'autant que le progressisme s'oppose au populisme. Voilà donc ce qui nous est amené comme le nouveau clivage politique français depuis le prétendu éclatement du clivage gauche-droite. Et dans le domaine social, ça donnerait quoi, le progrès?
Si t'as deux parents pédés, ça te gêne pas? Parce qu'avec papa et maman, eh ben on couche ensemble tous les trois. Ça te pose pas de problème? C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo.
C'est rigolo.
Bon, ça, super. C'est
une bonne réponse. Incroyable. T'es une progressiste. Non? Tu sais ce que c'est qu'une progressiste?
Non.
Comme ça, invente. Qu'est-ce que c'est pour toi une progressiste?
Je sais pas.
Et un croissant, c'est quoi?
C'est... Qu'est-ce que j'ai à manger?
Et voilà.
Ouais, ils ont déjà des préjugés à cet âge-là, je te l'avais dit.
Ah, perte de valeur, on en parlait. La troupe des chiens de Navarre dans Apnée, le film de Jean-Christophe Meurice. Donc, il s'agit d'anciens conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien et David Amiel, ce qu'on appelle caricaturalement, mais les théoriciens du macronisme, et qui nous expliquent ce nouveau clivage progressisme contre populisme. Vous y voyez de la pertinence dans ce clivage, ou ce serait plutôt progressisme contre conservatisme, ou encore autre chose?
Moi, j'y vois vraiment le signe de la fin des, l'absence d'idéologie, d'idéaux, ou peut-être même d'idées, et ce serait une sorte d'euphémisme pour désigner le fait de, le l'hypercapitalisme, l'hypertechnicisme, c'est-à-dire un mécanisme qui régit les sociétés, mais qui n'a pas de, vraiment de pensée, d'idéaux ou d'idées politiques.
C'est pas tellement un socle politique en réalité, ce clivage. C'est ça que vous dites, on n'a pas d'idéologie. C'est presque... Est-ce que c'est quand on n'a pas vraiment d'arguments qu'on a l'impression que c'est un peu moi ou le chaos, souvent. Comme pendant le deuxième tour, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, on avait le choix entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. C'est cet argument politique, est-ce que c'est un petit peu moi ou le chaos, je suis le rempart
Le rempart, voilà, mais il y a rien de d'affirmation d'idée positive, c'est contre. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, sans Emmanuel Macron, on se retrouverait maintenant avec Marine Le Pen, et que on a l'impression que les idées sont exprimées par les extrêmes.
C'est eux qui donnent le là, vous voulez dire?
Oui, c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent des directions, tout comme le fanatisme dans les religions, c'est-à-dire c'est l'extrémisme, c'est là que sont finalement les idées. Alors que avec la fin, c'est vraiment la fin de la politique. Donc il faut pas oublier quand même qu'effectivement sans Macron, nous aurions les extrêmes. Donc il faut protéger Macron.
Si mais Benoît Hamon est arrivé au deuxième tour,
mais vous savez à qui vous dites ça, où vous êtes tombée malheureuse.
Non mais est-ce que extrême, c'est pas encore une catégorie? On dit les extrêmes comme si c'était un tout, alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que les extrêmes, c'est pas aussi une catégorie comme on dit le progressisme?
Non, je crois que les extrêmes existent bien avec leurs supporters, leurs leaders charismatiques.
Enfin, l'extrême gauche et l'extrême droite, ça a par exemple rien à voir.
Ne se rejoignent pas.
Non, ça, idéologiquement, ça a absolument rien à voir aujourd'hui en France.
Eh ben, se rejoignent quand même sur certaines idées finalement. Et par exemple, sur la GPA, on retrouve l'extrême droite qui est contre, l'extrême gauche qui est contre. Ce que je veux dire,
la GPA, il y a même des gens qui sont
parfois se rejoignent.
Dans La République En Marche, qui sont contre aussi. Hein. D'ailleurs, La République En Marche est contre la GPA.
Il y a une députée qui s'est distinguée là-dedans.
Bah, elle est même contre la PMA. Ouais.
Et vous aussi, Eliette, vous êtes contre la GPA?
Oui. Bah, justement,
sans être extrémiste.
Sans être extrémiste, voilà. Oui, parce que je suis contre l'hypermarché, l'hypercapitalisme et les violences faites aux femmes.
Vous l'expliquez dans votre livre.
Oui. Mais je pense que vraiment le progressisme, c'est le signe de l'absence d'idéologie et qui fait peur.
Il y a une captation d'un mot aussi. Le progrès, le progressisme, c'est plein de sens et on a l'impression qu'il y a une captation.
C'est un mot vide.
Non, mais surtout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le monde politique s'approprie la notion de progrès? Or, dans la notion de progrès, il y a l'idée d'amélioration. Or, quand la politique parle de progrès, elle parle de changement. En réalité, pas d'amélioration. Et le contresens, il est tout le temps là. La politique est tout le temps en train de parler de progrès, mais en fait, elle pense changement, et qui ne suppose pas forcément d'amélioration. Qui serait contre l'amélioration? On serait tous pour. Mmh. Or, c'est pas ça qu'en fait, il y a une espèce de sens caché, où il y a une confusion des sens entre changement et amélioration. Donc, c'est pas du progrès.
Ce que dit Eliette Abécassi, c'est un peu un mot valise, un mot fourre-tout, et on peut mettre ce qu'on entend.
Et en particulier, je dirais que ce progressisme que l'on voit, par exemple, effectivement, dans les changements, dans l'éducation nationale, avec toutes les réformes de Blanquer, eh bien, ne vont pas effectivement dans le sens du progrès, parce qu'il me semble qu'on est en train vraiment de régir toute l'éducation par des algorithmes et de figer
Parcoursup, par exemple.
Oui, dans des castes. Alors, personne n'y comprend rien, voilà, c'est comme le progressisme, c'est-à-dire c'est des mots et Parcoursup, c'est une sorte de novlangue, personne n'y comprend rien, donc on est en train effectivement là de se laisser aller dans un progressisme qui ne va pas du tout dans un changement qui ne va pas dans le sens du progrès, à mon avis.
Eliette Abécassis avec nous jusqu'à 18h.
Haute tenue, hein, l'émission. Hein.
Ouais, aujourd'hui,
c'est pas rien, là.
Rukyata Ouédraogo est parmi nous aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, Rukyata.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'anniversaire. Vous savez, ces journées que nous passons tous les ans à mesurer notre déplacement sur l'axe du temps, du début vers la fin. On fait les fiers, on invite les copains, on rigole, on défie le temps qui passe, on mange beaucoup, on boit beaucoup. On croit que notre foi assumera comme quand on avait 20 ans. Et le lendemain, on se retrouve seul, avec une gueule de bois, face au miroir de la salle de bain, comptant nos rides et nos cheveux blancs. Les anniversaires, ça sert aussi à conserver la mémoire d'événements terribles qu'on ne veut pas oublier, pour en tirer des leçons, pour qu'ils ne se reproduisent plus. En France, on commémore les deux guerres mondiales. Et tous les ans, le président décore de très anciens combattants qui ne tiennent presque plus debout. On alourdit leur poitrine avec des nouvelles médailles. Je suis sûre qu'un jour, il y en a un qui va basculer en avant et tomber définitivement. Mais on ne commémore pas la guerre d'Algérie, ni les guerres de libération coloniale. Car, comme chacun sait, la mémoire, c'est sélectif. Ainsi, tous les 7 avril, le Rwanda commémore le génocide perpétué par les Hutus, extrémistes contre les Tutsis et les Hutus modérés en 1994. Et pour ce 25e anniversaire, le Rwanda a invité Emmanuel Macron parce que le mot « commémorer », ça veut dire « se souvenir ensemble ». Personne n'ignore plus maintenant les soupçons qui pèsent sur la France d'avoir été au mieux passive, au pire active dans ce génocide. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ce terrible traumatisme qui a secoué tout le continent africain. Je vous renvoie aux travaux des historiens. Mais les historiens, justement, ils ont besoin de fouiller dans les archives. Au Rwanda, avec tous les procès qu'il y a eu après le génocide, les archives, ça ne manque pas. Celles qui manquent, ce sont celles de l'armée française. L'armée ne cesse de clamer depuis 25 ans qu'elle n'a rien à voir avec ce génocide. Mais elle refuse toujours d'ouvrir ses archives et de laisser les historiens farfouiller librement dedans. On ne l'appelle pas la grande muette pour rien. Pourtant, en 2010, Sarkozy, lui aussi invité à cette commémoration du génocide, avait avoué que la France avait fait en 1994 des erreurs d'appréciation. Notez l'élégance de la formule s'agissant d'un génocide. Pourtant, le téméraire François Hollande avait promis l'ouverture de ses archives. Puis il a oublié. Macron, lui, a créé une commission de réflexion. Peut-être qu'elle rendra un rapport un jour, que quelqu'un lira peut-être. Mais vous savez ce qu'on apprend ces derniers temps? Macron n'ira pas au Rwanda pour la commémoration. En 25 ans, il est le second président français invité par le Rwanda après Sarkozy. Et il décline l'invitation. Il doit rester ici pour gérer tout plein de dossiers. On ne se rend pas compte, hein, mais président, c'est un job à temps plein. Hein. Alors, qui ira représenter la France à Kigali? Le Premier ministre? Ce jour-là, il a rendez-vous chez le dentiste. Le ministre des Affaires étrangères? Que nenni. Ce jour-là, il a prévu de ranger son bureau. Ce sera Hervé Berville, un jeune député de la République en marche de 29 ans, lui-même rwandais d'origine. C'est un Tutsi rescapé du massacre, arrivé en France à l'âge de 4 ans et adopté par une famille bretonne. On ne peut pas le suspecter d'être indifférent au sujet. Il ne sera pas comme tous ces officiels qui se rendent aux commémorations juste pour le plaisir de bailler et de manger des petits fours, ça c'est sûr. Cela dit, monsieur Berville, je peux me tromper peut-être, mais à mon avis, tu seras attendu à Kigali par de nombreux regards Tutsi. Et tous ces yeux te demanderont en silence. Qu'a fait la France en 1994 quand tu avais 4 ans? Mon frère, il te faudra beaucoup de courage pour ne pas faire comme les 3 petits singes. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Bon voyage, mon frère.
Merci, Rouquette Ouédraogo. Merci et bravo. On se demande tous pourquoi un génocide avec 800 000 morts, il n'y a pas tous les présidents de la planète qui se réunissent dimanche 7 avril. Merci, Rouquette. Allez, vous êtes sur France Inter. Eliette Bekassis est avec nous. Émilie Loiseau aussi. Viens avec moi, mon vieux pays.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi. Faire l'amour dans les champs, je veux faire l'amour. on joue sans avoir l'air de rien. Je resserrai encore entre mes dents la fleur rouge du printemps, rouge est ma peau.
C'est Lietta Pécassis qui nous accompagne aujourd'hui. Elle publie L'envie d'y croire, le journal d'une époque sans foi, paru chez Albin Michel. Vous parlez notamment de l'éducation des enfants et on va y revenir tout à l'heure dans le deuxième sujet que nous avons choisi pour discourir avec vous, Lietta. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Oui, grosse soirée pour moi hier soir. J'ai donné des sous au Qatar puisque je suis allé voir un match du PSG. Plus exactement, je suis allé écouter les chants des supporters parce que déjà, j'aime la chanson française. Hein, alors, on n'est pas sur de la playlist France Inter, sauf si Christine Boutin devient programmatrice, hein, parce qu'on va parler homophobie dans les stades. Alors moi, je peux vous en parler parce que j'ai pas mal fréquenté les tribunes à une époque, donc je suis pas exempt de tout reproche. Oui, j'ai eu une coupe mulet, cheveux longs dans la nuque, oui, mais je crois qu'il faut faire la paix avec son histoire à un moment donné. Ouais. Mais la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle a fait son baptême du feu avec le dernier PSG Marseille, et elle a un peu tiqué sur l'homophobie décomplexée de certaines paroles. Je suis donc allé voir les fans du PSG hier. Allez, on commence avec un premier supporter.
Sur l'histoire-là, c'est n'importe quoi. C'est, ouais. C'est du foot. Après, c'est des termes qu'on dit. C'est vrai que si tu dis un truc pédé, bah, c'est vrai que c'est un peu homophobe sur le coup, mais c'est pas péjoratif, on va dire.
Voilà, de pédé, c'est homophobe, mais c'est pas péjoratif. Hein, ça, c'est une question d'interprétation, je tiens à le rappeler. Quand les Parisiens chantent les Marseillais, c'est des pédés, c'est simplement une assemblée de sociologues hein, qui remettent les conclusions de leur thèse sur l'homosexualité en région PACA. N'allons pas tout confondre, s'il vous plaît. Allez, on continue avec un autre supporter, toujours sur la réaction de la ministre.
Ouais, je trouve ça débile parce qu'il n'y avait rien d'homophobe, je crois pas. Enfin, du moins, j'y étais en plus. À part l'OM en tant qu'cule, c'est pas homophobe, je crois pas.
C'est pas homophobe l'OM en tant qu'cule ?
Non, je crois pas. Non, c'est une invitation. Alors, c'est le on de en tant qu'cule qui peut faire peur parce que c'est vrai que des fois, ils sont plusieurs. Hein, par exemple, hier, ils étaient 60 000. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'cule, bon, alors, faut s'organiser, quoi. Faut se relayer. Faites un doodle agenda, démerdez-vous. Mais en tout cas, pas touche à la chanson de stade, hein, qui est une œuvre, hein, donc à protéger.
Faut que ça reste comme ça. C'est ce qui fait qu'on a envie de venir voir ce match, quoi.
C'est-à-dire, s'il y avait plus de chants homophobes, vous viendriez pas ?
Non, mais c'est, voilà. C'est comme ça, il faut pas que ça change, c'est comme ça, faut que ça reste comme ça.
On vous sent traditionnaliste.
Ouais, je suis très traditionnaliste.
Ah, c'est le patrimoine, hein, vous voyez, c'est le patrimoine. On a déjà perdu la bite au cirage à l'armée, on va pas nous enlever nos champs homophobes. Hein, vous allez voir qu'un jour on pourra même plus être raciste dans ce pays. Non mais on va où là, on va où? C'est quand même dingue. Alors que bon, le racisme, on est bon. Au moins, c'est un truc, on est bon, donc faut quand même le garder, quoi. Bon, de toute façon, les supporters sont prêts à se battre si la ministre veut les interdire.
Oh, on fera des manifs. Si...
Ça va, vous ferez des manifs?
Si elle nous prive de nos champs, c'est pas possible.
Vous ferez des manifs pour pouvoir chanter vos chants.
Ah oui. Ouais. Obligé.
Voilà, on mettra la CGT crampon sur le coup, on ira dans les rues. Dès qu'il y a un combat à mener, ça aussi c'est la France, hein, on répond présent. Non à l'homophobie-phobie, hein, non à la peur de l'homophobie, je le rappelle. Parce que certains supporters sont pas tranquilles avec l'homosexualité. Hein.
J'ai du mal encore avec ça, même si j'accepte, ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, j'ai du mal avec ça.
Vous avez du mal avec l'homosexualité en général ?
Bah ouais, enfin, dès qu'il y a un PD, j'aime pas trop.
Mais parce qu'on a peur d'attraper l'homosexualité aussi. Hein, on a tous des amis qui étaient hétérosexuels et qui ont un jour vrillé sur une chanson de George Michael. Hein, on a tous un vieil oncle qui vote Fillon, puis qui regarde des matchs de catch avec des mecs à paillettes en collant, voilà, en bavant. On a tous ça dans nos familles, donc personne n'est à l'abri et a trop chanté des chants sur la pénétration anale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ?
Après, eux, ils font pareil s'ils veulent. C'est un jeu, quoi. Sinon, on va pas se lancer des fleurs et tout. C'est...
Non, mais si vous vous sodomisez mutuellement...
Ah non, y a pas de ça.
Si vous dites Marseille, Marseille en tant que et eux qui disent Paris en tant que...
C'est ça qui est bien. C'est ça qu'on cherche aussi.
Est-ce que c'est pas de l'homosexualité refoulée ?
Bah non. Faut arrêter, sinon on va aller trop loin avec ça.
Bah j'ai déjà l'impression qu'on est pas mal loin quand même, là. Parce que c'est plus des stats, c'est des backrooms, là, les gars, les mecs. Là, va falloir sérieusement se poser des questions quand même. Même si, a priori, c'est pas prêt de changer.
Il y aura toujours des trucs homophobes, il y aura toujours des chants, des mots, des...
déclaration, que ce soit dans le football amateur ou dans le football professionnel.
Est-ce qu'on pourrait imaginer alors remplacer les chants homophobes par d'autres chants?
Non, ça sert à rien.
Ça sert à quoi?
Ça sert à rien.
Si vous pourriez chanter Marseille, Marseille, on t'embête.
Autant pas venir au stade pour chanter ça.
Non, c'est vrai, non.
Ah non, non, non.
Mais là, c'est deux syllabes qui changent.
Oui, mais bon, non, ça ferait pas la même chose.
Alors, bah, j'essaye de concilier hein, tout le monde, mais hein, c'est pas facile. Alors peut-être pour l'avoir pour les paroles avec Eddie Depreto. Hein, peut-être s'il faisait les chansons de stade, bah, ça aurait une autre gueule. Moi, j'offre des solutions. Alors j'ai proposé par exemple à d'autres supporters, Marseille, Marseille, on t'ennuie. Est-ce que ça pourrait mieux ça?
Ah bah oui.
Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Ça fait moins.
Le chant veut.
Ah, Marseille, Marseille quoi?
Marseille, ils sont un peu nuls. Hein.
Ah, voilà la solution. Marseille, Marseille, ils sont nuls. Comme ça, on garde la rime. Hein, heureusement qu'on peut compter sur les générations futures pour pas être aussi con que nous, on était dans les stades. Pour se rappeler qu'au Qatar, on se fait encore lyncher pour homosexualité, qu'en France, on se fait toujours tabasser et rejeter pour ça. Et si vraiment vous avez des envies, ne pas oublier le proverbe, la sodomie, c'est entre amis.
Merci Guillaume Meurice.
Voilà, service public.
Je crois que vous êtes dévoué donc pour aller au stade hier. Et le résultat du match?
3-0 pour le Qatar.
D'accord, très bien. Eliette Abécassis avec nous. Vous avez donc la connerie sans technologie. Là, il n'y a pas de technologie et il y a une belle grosse connerie depuis très très longtemps. C'est de la connerie authentique, traditionnelle, je dirais folklorique.
La connerie des foules souvent.
C'est ça.
Alors, abordons cet autre sujet avec Juliette, avec Clara Dupont-Monod, Rukiata, Guillaume. Les pères espagnols ont désormais droit à 8 semaines de congé parental. En 2021, les hommes pourront même prendre 16 semaines, comme les femmes, pour s'occuper de leur enfant. L'Espagne s'est ainsi engagée à atteindre en 5 ans l'égalité des congés accordés aux pères et aux mères, ce qui permettra de réduire les discriminations à l'embauche.
Ça va, te vexes pas, on peut parler quand même.
Je me vexe pas, hein. J'en ai juste plein le cul de faire le larbin toute la journée. Tout ça pour n'avoir aucune reconnaissance. En plus, tout le monde se fout de ma gueule, alors merde.
T'es sûr que c'est pas un petit peu dans ta tête, là, la reconnaissance, tout ça, là? Tu sais que chez les Scandinaves...
J'en ai rien à foutre des Scandinaves, ok? Je ne veux plus être homme au foyer, je veux être un homme normal, macho, réac, je veux rien glander de la journée, voilà ce que je veux qu'on laisse tranquille, merde!
Bruno Solomon, Isabelle Gélinas, dans un extrait de la série de France 2, Fais pas ci, fais pas ça, qui font allusion au modèle scandinave, et c'est vrai, il y a de 10 à 39 semaines en Norvège, il y a également, le minimum, c'est 60 jours en Suède, l'Espagne, pour l'instant, c'est 8 semaines, la France, 11 jours... Eliette Abécassis, même
week-end compris. Ouais. On nous a bien précisé tout à l'heure dans le bureau.
L'Espagne, qui est un pays réputé machiste, nous donne une sacrée leçon. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la France est tellement en retard? Est-ce que c'est un pays encore très conservateur?
Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de oui, c'est conservateur et puis peut-être quand même misogyne. Il y a du mal hein, à rétablir cette égalité aussi devant le travail, parce que c'est vrai que derrière cette mesure espagnole, il y a le fait de libérer les femmes de la discrimination à l'embauche, parce que quand on a 30 ans et qu'on veut se faire embaucher, c'est très compliqué parce que les patrons pensent que les femmes vont être enceintes pendant 10 ans et si on rétablit ça, effectivement, on va rétablir une vraie égalité, en tout cas devant le travail. Mais je doute que ce soit une égalité du rapport à l'enfant, parce que si les hommes prennent 6 semaines de congé parental, est-ce qu'ils vont vraiment s'occuper de leur bébé?
Ah, mais il y aura des surveillants.
Parce qu'avant, bien sûr, ils vont aller au match de foyer foot, hein.
Avec leur bébé.
Oui, c'est vrai, vous doutez de l'implication. Oui, c'est vrai. Vous doutez de l'implication autant que les femmes. C'est quoi? C'est la charge mentale de la femme? Qu'est-ce qui ferait qu'on doute d'une forte implication de l'homme, même s'il a un congé parental allongé?
Bah, je crois que c'est vrai que les femmes font un petit peu tout, comme les déesses Shiva, les hommes. Bon, mais en même temps, dans la prime enfance, c'est peut-être un peu plus les femmes qui doivent s'occuper de leur bébé. Moi, je suis pour l'allaitement. Et puis, voilà, je pense qu'il y a des moments, il y a le moment des pères, le moment des mères, et puis il faut se relayer.
Juliette s'entraider.
Oui, alors c'est à propos de la paternité et de la maternité, vous avez une phrase assez dure sur les enfants, enfin une succession de petites phrases, vous dites « Ils, les enfants, ne lisent plus, ne discutent plus, ne se regardent plus, ne voient plus, n'entendent plus, ne jouent plus, ne font plus de sport ».
Bon. Vous dites même les enfants sont des connards. Alors, si vous pouvez nous expliquer là-dessus, ça nous a un peu choqués.
Non, mais je trouvais ça un peu rude et un peu vaste, surtout. Et je me dis que, justement, si avec 6 semaines de congé paternité, potentiellement, les hommes vont devoir regarder leur rôle de père autrement.
Ouais. Et peut-être... Ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo avec les enfants.
Non, pas forcément. Oui.
Un papa, c'est pas que ça, quand même. C'est pas...
Non, bien sûr que non. Non, mais je veux dire... Le point de départ de ce livre, c'était il y a 3-4 ans où j'ai senti une bascule. J'ai ramené mes enfants de l'école, comme tous les jours, et je leur avais acheté un portable. Et puis là, ils ont regardé leur portable sur tout le trajet. On est arrivé à la cuisine et puis je préparais le goûter, etc. Et puis je leur ai dit, les enfants, comment a été votre journée? Racontez-moi. Et en fait, ils ne voulaient pas. Ils voulaient juste consulter leurs réseaux sociaux, leurs messages WhatsApp. Comme j'avais l'impression d'avoir affaire à un président et une femme d'affaires qui étaient là sur leur portable. Et je me suis dit, là, c'est fini le temps des mamans, le temps des goûters. Il y a quelque chose qui a vraiment changé dans nos mœurs. Et nos enfants sont captifs. Ils sont captivés. Et je les ai perdus. Mm-hmm. J'ai perdu
oui,
les
vous
enfants.
Avez juste c'est mal élevé vos gosses, en fait. C'est ça. Et vous avez fait un bouquin.
C'est vrai que l'enjeu des GAFA, c'est de capter l'attention. Et sur certains enfants, c'est, il faut être très vigilant. C'est plus réussi que d'autres. Elietta Bekassis avec nous. Et en face de vous, Clara Dupont-Mono pour nous parler littérature.
Et actualité, Charline. Ouais. Car l'actualité, l'actualité en ce moment, ce sont les indésirables. Alors, je ne parle pas de Guillaume Meurice, Elietta Bekassis, encore que. Non, je parle de ceux que la société rejette. Et ces indésirables, en fait, ils peuplent vos livres. Elietta Bekassis, vous vous nourrissez d'eux. Ce sont les femmes sans enfants, toujours regardées de travers, que vous avez défendues. Ce sont les femmes qui ont divorcé, malgré la tradition religieuse. Ce sont les migrants sur lesquels vous avez écrit, ces pestiférés et moderne. En bref, ces gens, je vous cite, d'une richesse humaine en même temps qu'une pauvreté commune. Alors, fidèlement à cette trame, j'ai un livre, spécialement fait pour vous et aussi pour tout le monde, qui s'appelle L'Indésirable et qui est signé Louis Guillou. Et là, mesdames et messieurs, nous entrons dans la galaxie d'un génie qui n'a pas été assez reconnu, puisque la postérité ingrate l'a évidemment rayé. Flashback, en 1935, sort un roman qui s'appelle Le Sang Noir et qui est un chef-d'œuvre de Louis Guillou. Gaston Gallimard dira « un des meilleurs livres que la maison ait jamais publié ». C'est le genre de phrase qui vous adoube, qui vous consacre, c'est l'équivalent d'un texto pour moi de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman aime Gaston Gallimard. Voilà, on a les Gaston Gallimard qu'on peut. Or, il se trouve que les chefs-d'œuvre ont toujours leur prémisse. C'est-à-dire qu'avant un texte immense, il y a très souvent un autre texte qui l'a précédé et qui portait en lui les germes du chef-d'œuvre, voire parfois qui vaut le chef-d'œuvre qui va suivre. Et c'est exactement le cas avec L'Indésirable. Il a été écrit 12 ans avant Le Sang Noir, en 1923. Louis Guillou l'a réécrit, raturé, refait. Il s'est arraché les cheveux sur ce texte. À ce moment-là, il a 24 ans. Il ne lâche pas. Il sent qu'il tient un truc avec son personnage de L'Indésirable, Jean-Paul, un jeune soldat qui revient blessé et traumatisé de 14-18. Alors, quand il revient, la petite ville de province, elle le félicite, on l'arrête dans la rue, on est hyper fiers de lui. On le surveille aussi, quand même. Et là, c'est la première ennemie personnelle de Louis Guillou qui est la bourgeoisie de province. Il la déteste. Je cite, « La guerre en province est sourde. Elle est polie. Les ennemis se rencontrent 100 fois par jour au coin des rues et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils échangent un salut. » Et cette haine de l'hypocrisie l'amènera beaucoup plus tard à dénoncer parmi les premiers le régime soviétique, ce qui lui vaudra l'estime sans limite d'Albert Camus. Camus adorait Louis Guillou et là encore, adoubement, un autre texto de Jean-Jacques Goldman qui me demande si j'ai bien reçu le premier. Oui, c'est un peu l'équivalent. Alors, quelle faute commet Jean-Paul? Il prend la défense d'un professeur injustement accusé d'être pro-allemand. Et en vérité, ce professeur a juste soigné une vieille dame alsacienne. À ce moment-là, la petite ville s'embrase, elle s'auto-abreuve d'un patriotisme haineux. Je cite, « La ville haletait, telle la bête qui talonne sa proie. Elle, d'ordinaire si tranquille, si innocente d'aspect, on la sentait frémir et palpiter, elle vivait enfin. » Et voilà Jean-Paul étiqueté pro-allemand, traître, misérable, indésirable.
On lit sa chute, on tombe avec lui, on voit les profiteurs s'épanouir sur ce tas de malveillance. Même les parents de Jean-Paul le lâchent, c'est implacable et terrible. Et c'est là où on mesure la détresse de toute cette génération. Cette génération de Guillou, Jean Giono, Louis Aragon, qui ont senti que la guerre de 14-18, en fait, inaugurait un cycle de barbarie, et ils avaient raison. Et voilà pourquoi ce livre a un rôle de sentinelle. Il monte la garde. En fait, il nous dit du fond des âges, attention, parce que exclure et broyer, c'est tellement facile. Et donc, en le lisant, nous, lecteurs, nous nous transformons en veilleurs. Je vous redonne les références. L'Indésirable de Louis Guillou est paru chez Gallimard. Et c'est une réédition.
Merci beaucoup, Clara Dupont-Monod.
Il y a un album de Goldman à nous conseiller, peut-être, aussi, en même temps?
Tous.
Tous, d'accord, très bien.
L'Alsace, où vous avez grandi, Eliette Abécassis,
oui,
n'est-ce
absolument.
Pas?
Oui, absolument. Je suis née à Strasbourg.
Ouais. Strasbourg. 17h52 à Strasbourg, à Colmar, et à Aegisheim, qui est jumelée avec ma ville, la Louvière, en Belgique. Alors, je salue la ville d'Aegisheim.
Placement de produit, bah, allez, la pub pour la ville,
on salue
l'office
pas
de
assez
tourisme.
Souvent Aegisheim, voilà. Eliette Abécassis, nous avons confié le troisième sujet à Juliette Arnaud.
Avec leur dernier tube, ODD, le groupe de rap PNL vient de péter les chiffres de YouTube. 12 millions de vues en moins de 2 jours, on en est à 35 millions aujourd'hui. Tout ça, écoutez bien Eliette, sans promotion et au-delà des frontières hexagonales. Et en règle générale, l'effet de PNL sur les adultes est le suivant, tu n'y comprends rien, tu penses que tu as 80 ans et que tu votes à droite. C'est que, voyez-vous, PNL joue avec les mots, les retourne comme pour souligner la réversibilité de leur caractère, trafique le langage, élimine par exemple les déterminants, sur ton cœur, je fais trou de boulette, je fais tache de sang sur le pull. Mais quoi ? Il faut manier avec dextérité l'imparfait du subjonctif pour être un artiste ?
Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plumez de l'amour quand vos yeux je parie. Sur le champ, vous vous apercevez que fallait-il que je vous vise, fallait-il que vous me plussiez.
Voilà, c'était l'autre Juliette. Non, comme c'est prétentieux, c'est Juliette Gréco qui chantait La complète amoureuse, un poème d'Alphonse Allais. C'était ça la question que je voulais vous poser, moi, Eliette. Connaissez-vous PNL ? Une question subsidiaire. Est-ce que vos enfants écoutent PNL ? Ou plutôt, savez-vous si vos enfants écoutent PNL ? Parce qu'en général, c'est un truc qu'ils font en loose-dé. Ouais.
Alors, non, moi, j'écoute la musique de mes enfants. Enfin, de toute façon, je suis bien obligée puisqu'ils la mettent à fond. Et par contre, c'est vrai que je suis extrêmement surprise par le succès du groupe et surtout par le contraste entre le visuel,
oui,
et qui est très très beau. Enfin, c'est très cinématographique les images. Et puis quand on les voit arriver, il y a wouh.
C'est plus cinématographique.
C'est plus voilà, plus du tout là. Ils sont. C'est bizarre.
Et mais... donc, vous voyez ça comme un phénomène dont vous vous sentez exclu ?
Je vois ça comme le phénomène de l'appauvrissement culturel, de l'appauvrissement de la langue. Ça me navre. Je ne sais pas comment lutter contre ça. Et j'y réfléchis tous les jours.
Parce que si on prend les textes, vraiment, pour avoir beaucoup lu les paroles sur Internet, c'est vraiment pas une langue pauvre. C'est une langue trafiquée, tordue, mais elle n'est pas pauvre. Ils ont même un registre de vocabulaire qui est assez étendu.
La syntaxe est peut-être catastrophique, non ?
Mais elle n'est pas. Ils ne font pas de faute. Ils décident délibérément de passer outre. Mais est-ce que c'est pas le, enfin la licence poétique, ça existe ? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Pourquoi ne pas la leur accorder à eux ?
Oui, alors c'est un débat. Il faudrait voir un petit peu, écouter leur prose. On peut.
Mais ils sont. Vous tapez par exemple ODD paroles et les paroles arrivent et franchement ça n'est pas pauvre.
C'est un petit peu la querelle des anciens et des modernes adaptés rap aujourd'hui. Oui. On n'y a pas vraiment de réponse, non.
Moi, je préfère Angèle et je trouve que ces textes sont magnifiques. Ils sont très d'ailleurs critiques de notre société. Ils sont poétique, élégant.
Ce sont deux écoles.
Chacun.
Et un message aux enfants d'Eliette Abécassis, obéissez à votre maman. Quoi.
Lâchez ce portable immédiatement. Maman est fatiguée.
Eliette, on voudrait jouer avec vous si vous acceptez. On a un rôle à vous proposer.
Tous les jours, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte. Et aujourd'hui, on a imaginé Theresa May, parce qu'elle essaie de trouver une solution pour le Brexit. Elle est à bout de nerfs. Alors, on s'est imaginé Theresa May chez son psy. Vous êtes Theresa May, je serai le psy. Et peut-être même, il y aura des surprises dans le sketch. Bonjour Madame May, je vous en prie, installez-vous sur le divan. Vous vous sentez comment en ce moment ?
Comme si, comme ça.
C'est-à-dire ?
Oh, faut pas dramatiser non plus.
Qui parle là ?
Mais c'est moi, ta conscience. Je suis dans ta tête, là. Je te le dis, tu vas plutôt bien. Hein.
Attends, t'es sérieuse, meuf?
Oh non, pas elle.
C'est qui?
Je suis sa coloc. Je peux te dire qu'il y a un bordel dans ta tête.
Mais non, mais toi, tu dramatises tout, toi.
Ça va? Je peux parler à mon psy, là?
Oui, alors parlez-moi, dites-moi, est-ce que vous êtes bien entourée?
Bah oui.
Complètement givrée, celle-là. T'es aussi seule que Benoît Hamon. Tu te retrouves même obligée de bosser avec monsieur Mr Bean.
Non, c'est Jérémy Corbyn.
Ouais, ça va, c'est pareil.
C'est vrai, je me sens parfois un peu isolée.
D'accord, t'as bien, vous avez le sentiment d'échec?
Mais non, on a grave géré, meuf.
Je sais pas ce que tu mets dans ta queue, pauvre fille, mais ça te réussit pas, toi. Hein.
Quoi encore?
On est au bout du rouleau, le monde entier se paie notre tronche.
Ouais, bah, au moins, on s'intéresse à nous, là.
On a tellement mal géré notre départ que plus personne n'a envie de quitter l'Europe. Même Marine Le Pen, elle est prête à chanter l'hymne à la joie.
Je dirais que le processus est un peu plus compliqué que prévu.
Mmh, je vois, oui. Comment voyez-vous l'avenir?
Sombre. Très sombre. Oh,
carpe diem.
Mais voilà, qu'elle continue à raconter n'importe quoi.
Ah, quand tout ça sera terminé, la vie sera belle. Hein.
Est-ce que vous croyez le pays capable de se relever de cette crise?
Bah ouais, impossible n'est pas anglais.
Français, meuf. Impossible n'est pas français.
Je crois qu'on finira par trouver une solution.
Bah moi, je crois surtout qu'on va finir par devenir un pays du tiers-monde.
Mais non, on pourra faire du commerce avec nos anciennes colonies.
Ah oui, très bonne idée. On va exporter nos Rolls-Royce à Trinidad et Tobago. Pareil qu'ils ont un gros pouvoir d'achat.
Bon, bah très bien, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Hein.
Merci, docteur, j'y vais. Mais en même temps, je resterai bien encore un peu.
Ah ben alors, faut choisir là. Vous restez ou vous sortez?
Oh non.
Merci Eliette Bécassis, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci.
Je rappelle l'essai que vous publiez chez Albin Michel et qui s'intitule « L'envie d'y croire ». Merci à tous, merci Clara Dupont-Mono, Rukiata Ouedraogo, Juliette Arnaud. C'était une émission de filles avec Guillaume Meurice.
Oui, tout à fait, en minorité.
Et
c'est vachement mieux.
On
hein.
se retrouve demain avec Nadia Dame et voici le mot de la fin à Eliette Bécassis sur le congé parental.
Si les hommes prennent 6 semaines de congé parental, est-ce qu'ils vont vraiment s'occuper de leur bébé?
Ah, mais il y aura des surveillants.